Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu la dernière fois que la vertu de justice est essentiellement tournée vers le bien commun, vers les biens les plus hauts, les biens au sens spirituel bien entendu. Nous avons pris l'exemple du bateau, ce qui nous montre que la vertu de justice est tout d'abord inégale, puisque le capitaine n'est pas barreur, etc. Surtout, elle est une vertu générale, car elle réunit toutes les énergies de chacun des matelots dans le but à atteindre. Et si on prend l'exemple du corsaire Surcouf, cela devient beaucoup plus net encore. Les marins de Surcouf mettaient toutes leurs énergies, non pas seulement au service du capitaine et du bateau, mais ils espéraient bien mettre à genoux l'ennemi héréditaire de la France, à savoir l'Angleterre. Je vous ai demandé de réfléchir, c'était un peu vos devoirs de vacances, mes bien chers frères, sur ce qui, aujourd'hui, dans la société moderne, s'oppose à la vertu de justice. Car vous comprenez bien que la vertu de justice étant une vertu générale qui porte sur la société, sur le bien qui nous dépasse et qui ne porte pas, comme les vertus de force et de tempérance, sur notre bien propre, la vertu de justice est supérieure aux autres et il est évident que les ennemis de la chrétienté vont s'attaquer à la vertu de justice en tout premier. Certes, du côté des moyens, ils vont peut-être prendre des moyens qui ne visent pas directement la vertu de justice, mais ça, ce qui est premier dans l'intention est souvent dernier dans la réalisation. Malgré tout, lorsqu'ils agissent, ils veulent détruire cette vertu de justice. D'autant plus, je ne vous en ai pas encore parlé parce que j'ai voulu rester au niveau philosophique, mais si nous passons au niveau théologique, la vertu de justice, quand il s'agit de Dieu, s'appelle la vertu de religion, et il est évident qu'en détruisant la vertu de justice, les ennemis de Dieu et de la chrétienté détruisent la vertu de religion et donc toute la religion, tous nos rapports avec Dieu, qui sont fondés. Il ne peut pas y avoir de charité s'il n'y a pas de justice. Il ne peut pas y avoir d'amour de Dieu s'il n'y a pas de respect de Dieu, de service de Dieu. Rappelez-vous les exercices de Saint Ignace, principe et fondement. L'homme a été créé pour honorer, louer, servir Dieu, par ce moyen sauver son âme. On pourrait être surpris que Saint Ignace ne parle pas de la charité, il en parlera après, dans le reste de ses exercices, mais le fondement, c'est la justice, sinon il n'y a plus rien. Une charité injuste, ce n'est ni de la justice, ni de la charité. Donc notre adversaire, nos adversaires, vont particulièrement chercher à détruire la vertu de justice, et nous, englués que nous sommes dans nos concupiscences, il faut bien dire le terme, dans nos concupiscences natives qui nous viennent du péché originel, qui nous viennent de nos péchés personnels, qui nous viennent de... nous avons toute notre vie à lutter contre les concupiscences. Il faut faire pour cela un effort et pour tomber, il n'y a rien à faire, il suffit de ne rien faire. Pour gagner le ciel, il faut faire quelque chose. pour tomber en enfer, il suffit de ne rien faire. Les moyens par lesquels nos adversaires détruisent la vertu de justice et donc détruisent l'amour du bien, détruisent le bien commun, enfin bref, toute la vie sociale. Le premier, à mon avis, c'est la démocratie. Tous les auteurs qui ont étudié la Révolution et le régime démocratique qui en est issu disent que ce régime complètement contre nature livre l'individu seul aux mains de l'État. Et l'État n'est plus un bien commun, il est une espèce d'individu supérieur, une espèce de monstre tyrannique. Nous le voyons bien aujourd'hui. Comment voulez-vous dire à un jeune aujourd'hui de se mettre au service de la République? Je ne dis pas que ça n'est pas légitime. Je dis que cela ne l'attirera pas. Vous pouvez lui conseiller de faire l'ENA, l'École nationale de l'administration, pour avoir un très beau poste. Mais ne lui dites pas qu'il servira la République, parce que ce n'est pas vrai. Vous pouvez lui conseiller, et hélas, trop souvent, on lui conseille de faire l'armée. Il y trouve une certaine vertu de force, il croit y trouver un certain idéal. Ce qui est une certitude, c'est que l'armée ne sert pas la République. Et c'est exprès que je dis la République, parce qu'on ne peut pas dire la France. Et alors comment dire ? L'État, la nation, le pays, toutes ces notions ont été complètement bouleversées. Non seulement les mots ont été déformés, mais je vous conseille de lire l'excellent livre de l'historien Vigri, les deux patries. Vraiment, je vous conseille de lire ce livre, surtout au centième anniversaire de la guerre de 14-18, pour voir que ce qui nous est proposé sous les noms d'États, de pays, de nations, que sais-je encore, de patrie, c'est un monstre dévorant. On ne peut pas aimer un tel monstre. Personne ne peut aimer cela. Lorsque le paysan défendait sa patrie en 1914, il le faisait pour deux raisons. La première, c'était sa famille. On le voit dans les lettres des poilus. Il se préoccupe de leur femme, de leurs enfants, de leurs champs, puisque avant la guerre de 14, il y avait encore plus de 50% de la population vivant à la campagne. Et le champ est l'aspect concret de ce qui fait vivre la famille. Le champ, c'est comme la maison. Pour un bourgeois, une maison a beaucoup d'importance. Pour un paysan, c'est son champ qui a de l'importance. La deuxième raison pour laquelle les soldats se sont tant battus en 14-18, c'est qu'ils croyaient défendre une civilisation, pas seulement une patrie, mais une civilisation, contre la barbarie, qui était très réelle, allemande, non pas que les enfants étaient mangés par les Allemands, non pas qu'on leur donnait du chocolat empoisonné comme la propagande a voulu le faire croire, non pas que les petits Belges avaient les mains coupées par les barbares qui n'étaient pas nazis encore à l'époque, mais bon, on fait de l'anticipation. Non, c'était le Kulturkampf, Bismarck, la Prusse, le protestantisme. Ça, c'est une vraie barbarie. Et cela, le français le sentait bien quand même. La deuxième, il se fait avoir, on lui a menti, on lui a dit qu'il combattait la barbarie, il a fait entrer, les deux guerres ont fait entrer en France une barbarie certainement pire que la barbarie du Kulturkampf allemand, prussien, je devrais dire prussien, non pas allemand, c'est la barbarie américaine. La barbarie capitaliste, alors qui est une barbarie soft, douce, avec des rocking chairs et des fauteuils profonds, du Coca-Cola, tout ce que vous voulez, je vais y venir, n'empêche que c'est une barbarie. Les Américains ne s'y sont pas trompés en exigeant pour donner les secours, comment ça s'appelait, les secours financiers, le plan Marshall à l'Europe, notamment à la France, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont exigé la libre pénétration des films américains en France et des séries télévisées américaines en France. Parce que, d'abord, ça fait un argent monstrueux, et puis parce que c'est une anti-civilisation, c'est la destruction de toute civilisation, de tout idéal. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. C'est très intéressant de voir comment, à travers les films américains, les bons films américains, je ne parle pas des mauvais, ouais, c'est tous des navets, enfin bon, les bons navets, disons, une autre civilisation, une autre spiritualité, une autre religion est mise en place et pénètre dans les mentalités, jusque dans nos familles traditionnelles. La démocratie, c'est la disparition des corps intermédiaires. Cela, c'est une notion de philosophie politique qui a été complètement oubliée. Et cette disparition est absolument catastrophique. Je vais essayer de vous le dire en quelques mots, mais mes bien chers frères, j'y reviendrai peut-être une autre fois, tellement c'est important. Un citoyen, un sujet, dans un pays, ne peut pas servir le bien commun directement, le bien du pays directement. Il le sert à travers des activités qu'il exerce en commun avec d'autres concitoyens. Je vous donne un exemple. Un instituteur ne peut pas servir son pays sans avoir une classe. Et il ne peut pas avoir une classe sans qu'il y ait des maîtres qui l'aient formé, lui, l'instituteur. Et ces maîtres sont reconnus par leurs égaux, leurs pairs. C'est ce qu'on appelle l'université. L'université a été mangée par la Révolution française. Elle a été absorbée par l'État. Ce qui est une erreur, c'est plus qu'une erreur, c'est contre nature. Comment voulez-vous que des fonctionnaires connaissent tout le savoir et sachent juger qui peut être docteur, qui peut être maître, qui peut être instituteur? C'est impossible. La même chose pour la médecine. Un médecin n'agit pas sur l'hygiène publique directement. Il agit sur l'hygiène publique en agissant sur l'hygiène de sa commune, de son quartier, de sa région, enfin, des gens proches de chez lui. Et pour cela, il y a des docteurs, des savants en médecine qui lui ont donné le diplôme et qui reconnaissent son activité. Le corps des médecins est un corps intermédiaire. Si vous ne pouvez pas, aucun médecin, aucune infirmière ne peut soigner et ne peut profiter à la santé publique sans exercer à l'intérieur de ce corps. D'ailleurs, ce corps est tellement nécessaire qu'à la révolution de 1945, je ne me suis pas trompé, mes bien chers frères, ma langue n'a pas fourché, à la révolution de 1945, De Gaulle a été obligé de garder malgré tout cet acquis de Vichy, cette restauration faite par Vichy, à savoir l'ordre des médecins. Et je ne veux pas insister trop pour pas trop prolonger ce sermon. Il est évident Et cela, il n'y a qu'une seule congrégation en France qui ait compris l'importance des corps intermédiaires, ce sont les pères de Saint-Vincent de Paul, qui malheureusement sont tombés eux aussi maintenant, à laquelle appartenait le père Reynaud, qui a fait tant de bien au MJCF. Tiens, le MJCF était un corps intermédiaire. Il est tombé, lui aussi. Il est en train de tomber. Oui, il est quasiment tombé. Et il est même totalement tombé. Parce qu'il a cessé d'être un corps intermédiaire. Parce qu'il est dans la main de la fraternité Saint-Pie-X. Eh bien, les jeunes faisaient un bien extraordinaire à l'Église à travers le MJCF. D'autres ont fait un bien extraordinaire à l'Église à travers les franciscains, à travers les dominicains, les jésuites et que sais-je. Comment voulez-vous qu'un jésuite serve l'Église s'il n'agit pas à l'intérieur de son ordre? Cette disparition des corps intermédiaires, la gauche s'est très bien rendu compte de cette importance. Et lorsque les catholiques ont voulu, au XIXe, surtout à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, travailler en faveur des ouvriers, ce qu'on a appelé la question sociale, lorsqu'ils ont voulu travailler en faveur des ouvriers, la gauche, les socialistes, ont cédé sur le travail des femmes, sur le travail de nuit, sur le travail des enfants, sur le repos dominical, sur le nombre d'heures travaillées. Ils ont même cédé sur les congés, ils ont cédé sur plusieurs choses. Ils n'ont jamais, jamais, jamais cédé sur la restauration des corporations. Parce qu'une corporation, c'est un corps intermédiaire, et dès qu'une société, dans une société, les corps intermédiaires sont restaurés, la société, naturellement, j'allais dire presque toute seule, se restaure elle-même. L'amour du bien du corps intermédiaire rééduque les individus à l'amour d'un bien qui les dépasse, l'amour du métier par exemple, c'est un exemple, il n'y a pas que ça, l'amour du métier éduque les jeunes à l'amour d'un bien qui les dépasse, et à partir de là, on crée une direction, et le jeune sait qu'il y a des biens encore supérieurs qu'il doit aimer plus que soi-même. Voilà pourquoi la gauche a accepté, quand on demandait la restauration des corporations, elle a accepté des syndicats, elle n'a jamais accepté de corporations. Parce que le syndicat fait l'inverse. Le syndicat, c'est la haine des classes, c'est la lutte des classes, c'est la haine. Il n'y a rien de plus commun entre un ouvrier de n'importe quel métier, prenez la soierie par exemple, comme ça, il n'y a rien de plus commun entre un ouvrier de la soie et un patron de la soie que le métier de la soie. Si vous opposez le patron à l'ouvrier, l'ouvrier au patron, vous détruisez tout. C'est simple. Et je prends la soie parce que justement, c'est ce qui s'est passé au 19e, avec Louis-Philippe, qui a fait tirer au canon sur les soyeux de Lyon. Les syndicats vont défendre, mais ils vont défendre quoi? Un intérêt de classe, pas l'intérêt commun. Alors après ça, comme il faut bien vivre, la loi du plus fort fait que le plus faible s'accommode. Alors l'ouvrier est bien obligé de s'accommoder au patron, le patron est bien obligé de s'accommoder à la révolution ouvrière. Par là-dessus, le capitalisme, qui est doué, 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 mes bien chers frères, très doué, trouve le moyen de retourner la situation en sa faveur, et puis, de nouveau, le capital tient tout en sa main. Vous allez me dire que je fais de la politique. Mais évidemment que je fais de la politique. La vertu de justice, c'est de la politique. Ce n'est pas possible de faire autrement. On nous a, on a voulu nous réduire à rien, on a voulu nous ôter notre énergie en nous disant de ne pas faire de politique. C'est encore un des moyens de la révolution que j'avais oublié de recenser, mais l'idée m'en vient. On a mis dans la tête des papes, des évêques, que les chrétiens ne devaient pas faire de politique. Résultat, que sont-ils ? Ils ne sont plus rien. Un chrétien qui ne fait pas de la politique, ce n'est pas un homme. Quand vous demandez, quand le pape Pie XI demande aux Mexicains de ne pas faire de politique, les Mexicains n'ont plus qu'à se laisser écraser par la franc-maçonnerie. C'est tout. Évidemment que les pères de famille font de la politique. C'est la grande, une des grandes richesses de l'ancienne France que d'avoir fait une société politique. Le roi est le garant. Je parle de l'ancienne France, je ne parle pas de Louis XIV. Je parle jusqu'à Saint-Louis et un peu au-delà. Le roi est le garant de l'activité dans le royaume et chacun à sa place prend ses responsabilités et vous avez des présidents de corporations locales, des présidents de corporations régionales, des présidents de corporations nationales qui sont encore dans les corps intermédiaires. Ce n'est pas n'importe qui, vous savez, le président de la corporation des sabotiers, des menuisiers. Quand je dis national, non, excusez-moi, c'est pas possible, il n'y avait pas de nation, il n'y avait que des régions. Vous ne pouviez pas avoir une corporation qui dépasse le cadre de la Bretagne, de l'Anjou, de la Normandie, c'est pas possible. On ne pouvait pas imaginer, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez des meubles provençaux, des meubles bretons, des meubles normands, des meubles etc. Parce que chaque corporation avait son autonomie. Et par là, chacun faisait de la politique. La vraie politique. On a mis dans la tête du pape qu'il fallait qu'il fasse de la religion, qu'il n'avait pas à se salir les mains avec la politique. Parce que c'est vrai que la politique moderne est sale. Mais à nous de la purifier. Le péché est sale. Autant nous dire de ne pas confesser parce que le péché est sale. Autant nous dire de ne pas prêcher parce que dans la première semaine des exercices, on prêche sur le péché qui est sale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors le pape a dit la même chose aux Portugais, ne faites pas de politique. Il a dit la même chose en 1897 aux Français, ne faites pas de politique. Le résultat, eh bien, c'est que la France a été livrée à la gauche. Faut que j'avance, mais je suis sûr que vous m'écoutez là. Je suis sûr que vous ne voyez pas le temps passer. Enfin bon, 22 minutes, faut peut-être que je m'arrête quand même, parce que ce que j'ai à vous dire la prochaine fois est très 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 important, mes bien chers frères. Alors, bien, j'étais un petit peu long sur ces principes généraux de politique. C'est tellement important. Écrivez-moi. Envoyez-moi des messages. Monsieur l'abbé, je n'ai pas compris. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que le corps intermédiaire ? Monsieur l'abbé, pourquoi accordez-vous tant de place à la politique ? La vraie, la bonne ? Écrivez-moi, demandez-moi. Je continuerai. Et puis la prochaine fois, je vous parlerai des moyens plus concrets que la Révolution met en œuvre pour, alors cette fois-ci, pénétrer pas seulement dans les esprits, mais jusque dans les cœurs, j'allais dire jusque dans les mains, jusqu'au cœur des foyers, au cœur de vos enfants, détruire vos enfants. Demandez à la Sainte Vierge qui a inspiré les grands ordres chrétiens, qui a inspiré toute cette générosité des grands ordres chrétiens. Demandez-lui une grande générosité. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous comprenez qu'à travers tout cela, c'est le règne du Christ roi qui est en jeu. Je reste à la philosophie politique parce que je suis persuadé, comme le dit François Dufay, le père Dufay, dans L'étoile contre la croix, sur la révolution chinoise, la grande erreur, il dit qu'ils ont commis deux erreurs. La première grande erreur est de ne pas avoir enseigné la philosophie à nos fidèles. Parce que la gauche fait de la philosophie, elle fait de la philosophie tordue, de la philosophie de gauche, et les fidèles sont désarmés. Et la deuxième, c'est de ne pas leur avoir prêché l'apostolat. Là encore, on est dans le bien commun. On leur a dit de se sauver, on leur a dit qu'il fallait sauver leur âme, on leur a dit qu'ils devaient prier pour être des bons chrétiens, ça n'a rien donné, ou pas grand-chose. Quand on leur a dit qu'il fallait sauver les autres, comme la Sainte Vierge à Fatima, prier pour la conversion des pécheurs, ils leur ont dit « agissez pour la conversion des pécheurs », alors là, pour un idéal qui dépasse l'individu même chrétien, alors là, tout le monde a bougé. Et c'est comme ça qu'on a encore aujourd'hui, en Chine, des chrétientés merveilleuses, bon, que le pape François est en train de trahir comme il a trahi la fraternité Saint-Pédis. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.